Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Le sujet de ce jour est la délivrance dans le Nouveau Testament. Dans notre dernière étude, nous avons vu de quelle manière Dieu a délivré son peuple de l'esclavage et lui a donné la liberté dans un pays qui lui serait propre. Cette histoire explique bien pourquoi Actes 7, verset 35, dit que Dieu avait envoyé Moïse comme chef et comme libérateur. Mais quand nous commençons la lecture du Nouveau Testament, nous trouvons le peuple de Dieu opprimé de nouveau. Il était toujours dans son propre pays, mais comme tout le monde méditerranéen à l'époque, il était sous le pouvoir de l'Empire romain. Une nation étrangère et païenne dominait le peuple de Dieu, lui faisait payer des tributs, violait ses coutumes et construisait des temples d'idoles dans la Terre Sainte. Ses soldats patrouillaient le pays et occupaient une forteresse qui donnait directement sur le temple de Jérusalem, l'endroit le plus sacré au monde pour les Juifs. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient prophétisé la venue du Messie, celui qui apporterait la délivrance. Ésaïe 59, verset 20 l'appelle un rédempteur et libérateur. Ésaïe 61, verset 1 à 3 aussi, touchait le cœur de ce peuple découragé. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Selon Luc 4, Jésus-Christ a lu ce passage dans la synagogue de Nazareth, où il avait grandi. Puis il annonça que le texte parlait de lui. Il était celui qui délivrerait. Beaucoup en Israël espéraient ardemment l'arrivée de ce libérateur. Mais ils ne comprenaient pas que le Christ venait pour apporter une délivrance plus importante que la libération politique vis-à-vis de l'empereur romain. Jésus avait en vue une servitude spirituelle qui concernait toute la planète et dont les conséquences étaient bien plus graves que la colonisation. Cette délivrance serait plus glorieuse que la sortie des Israélites du pays de l'Égypte sous la conduite de Moïse. C'était une autre sorte de liberté que Jésus promettait. En Jean 6, versets 14 et 15, après que Jésus a miraculeusement nourri une foule de plus de 5000 personnes, les gens voulaient le faire roi. Mais Jésus s'est retiré d'eux. Il ne cherchait pas un pouvoir politique. Quand il a comparu devant le gouverneur romain, Ponce Pilate, celui-ci lui a demandé s'il était le roi des Juifs. La réponse de Jésus a montré clairement qu'il n'avait pas d'ambition politique ou militaire. « Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Jean 18, versets 36 et 37. Même après 3 ans avec lui, les apôtres de Jésus semblaient conserver l'idée d'une délivrance de l'oppression romaine et un retour à l'indépendance de l'État juif. Quand Jésus s'apprêtait à remonter vers Dieu, les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Acte 1, verset 6. Quelques jours plus tard, le Saint-Esprit les éclairerait et ils comprendraient la nature spirituelle de ce royaume. En fait, la servitude qui est la plus en vue dans le Nouveau Testament c'est la servitude au péché. Les Juifs ne le reconnaissaient pas toujours, mais même les passages dans l'Ancien Testament qui parlaient du Messie se référaient souvent à la délivrance de cette servitude-là. En Romains 11, versets 26 et 27, l'apôtre Paul cite les prophètes Ésaïe et Jérémie en disant « Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. » L'orgueil fait que l'on ne veut pas toujours reconnaître ce genre de servitude. Quand Jésus a suggéré à certains juifs qu'il pouvait les libérer, ils n'ont même pas voulu reconnaître les oppressions physiques, ni du passé en Égypte, ni en Babylonie, ni au moment où ils parlaient sous la domination romaine. À plus forte raison, ils n'admettaient pas leur servitude spirituelle. Écoutez cet échange de paroles en Jean 8, versets 31 à 36. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?»« En vérité, je vous le dis, » leur répliqua Jésus, « quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. L'apôtre Pierre a plus tard parlé de certains faux docteurs qui, comme ces juifs, ne reconnaissaient pas leur état de servitude. Il dit, « Ils formulent des déclarations orgueilleuses et stupides. Ils se servent des désirs immoraux de leur propre nature. » Pour prendre au piège ceux qui viennent à peine de s'échapper du milieu des hommes qui vivent dans l'erreur. Ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves d'habitudes qui les entraînent à la mort, car chacun est esclave de ce qui le domine. 2 Pierre 2, versets 18 et 19. La bonne nouvelle de Christ vise surtout la délivrance de cet esclavage spirituel dans lequel chaque pécheur se trouve. Paul dit aux Romains, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. » Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, versets 1 à 8, versets 22 et 23. Pensez à la délivrance des Israélites qui avaient été réduits à l'esclavage en Égypte. Il y a plusieurs parallèles entre cette délivrance et celle que Jésus apporte. Les Israélites étaient impuissants pour se libérer eux-mêmes du pouvoir égyptien. Il fallait que Dieu intervienne. Les hommes pécheurs n'ont aucun moyen pour se libérer du péché et de ses conséquences. Dieu a suscité Moïse, qu'il avait préparé depuis longtemps pour délivrer le peuple israélite. Dieu a aussi suscité un libérateur dans la personne de Jésus-Christ, pour nous délivrer. Pharaon n'a pas voulu laisser partir ses esclaves. Notre ennemi et oppresseur, Satan, ne veut pas que nous soyons libérés de son pouvoir. Pour qu'un Israélite soit sauvé, il fallait le sacrifice d'un agneau, innocent et sans défaut. Ce sang était nécessaire pour que les Israélites ne soient pas punis avec les Égyptiens. En ce qui concerne notre délivrance du péché, Jésus est non seulement le libérateur qui a vaincu notre ennemi et qui nous conduit vers la liberté, il est aussi le sacrifice. Il est l'agneau dont le sang est si nécessaire pour notre salut. Pour sortir de l'Égypte et atteindre la délivrance, il a fallu que les Israélites passent par les eaux de la mer Rouge. De l'autre bord, ils ont loué Dieu de les avoir sauvés. Pour sortir du monde, qui est sous le pouvoir du diable et la condamnation de Dieu, Il faut que les hommes aujourd'hui passent par les eaux du baptême. C'est après être sorti de cette eau que l'on peut louer Dieu parce qu'on est maintenant sauvé. Après la traversée de la mer Rouge, les Israélites ne se trouvaient pas encore dans le pays que Dieu voulait leur donner. Ils devaient faire face à l'épreuve du désert. Beaucoup se sont montrés infidèles à Dieu et ils y sont morts. Après le baptême, le chrétien n'est pas encore dans le paradis. Il est encore sur la terre où il est éprouvé. Malheureusement, beaucoup ne restent pas fidèles au Seigneur et ils n'arrivent pas au but. C'est en traversant le fleuve du Jourdain que les Israélites sont entrés dans le pays de Canaan, le pays que Dieu avait promis à leurs ancêtres, là où toutes les promesses ont été pleinement accomplies. Notre Jourdain à nous, le fleuve que nous devons traverser, c'est la mort. Et notre pays promis, c'est le ciel. C'est de l'autre côté de la mort que nous recevons pleinement ce que Dieu a préparé pour nous comme bénédiction. Comme nous l'avons dit, les ressemblances entre ces deux délivrances sont nombreuses. La première a clairement préfiguré la seconde. Mais de toute manière, la délivrance qui nous est offerte est supérieure. À la naissance de Jean-Baptiste, son père Zacharie a prophétisé. Nous ne pouvons pas savoir si, oui ou non, il comprenait que les ennemis dont il parlait n'étaient pas de simples hommes, mais plutôt dans le monde spirituel. Mais en tenant compte des passages que nous avons vus, nous voyons aujourd'hui que la prophétie parle bel et bien de la délivrance du règne du péché. Zacharie a dit ceci en Luc 1, versets 68 à 79. Loué soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël, parce qu'il a porté son attention sur son peuple et l'a délivré. Il a fait apparaître un puissant sauveur pour nous, parmi les descendants du roi David, son serviteur. C'est ce qu'il avait annoncé depuis longtemps par ses saints prophètes. Il avait promis qu'il nous délivrerait de nos ennemis et du pouvoir de tous ceux qui nous haïssent, qu'il manifesterait sa bonté à nos ancêtres et se souviendrait de sa sainte alliance. Car Dieu avait fait serment à Abraham, notre ancêtre, de nous libérer du pouvoir de nos ennemis et de nous permettre de le servir sans peur, pour que nous soyons saints et justes devant lui tous les jours de notre vie. Et toi, mon enfant, Jean, tu seras appelé prophète du Dieu Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer son chemin et pour faire savoir à son peuple qu'il le sauvera en pardonnant ses péchés. Car notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il fera briller sur nous une lumière d'en haut, semblable à celle du soleil levant, pour éclairer ceux qui se trouvent dans la nuit et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Quand on disait « délivrance », certains juifs pensaient à la solution d'un problème de cette vie seulement, un problème d'oppression aux mains des étrangers. Beaucoup de ceux qui entendent le mot « délivrance » aujourd'hui pensent également à la solution de certains problèmes de cette vie physique. Ne faisons pas l'erreur, comme ces juifs, de ne pas voir que notre besoin le plus grand et le plus urgent et le besoin d'une autre sorte de délivrance, celle que Jésus est venu nous apporter. Elle est vraiment merveilleuse, et nous n'avons pas fini d'en parler. Ne manquez pas donc de suivre notre prochaine émission dans une semaine.